Les archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
I would not particularly like to be described as popular. Popularity, after all, can be bought. I would prefer to feel that I am trusted.
Je n'appréciais pas spécialement d'être dit populaire. Après tout, la popularité peut s'acheter. Je préfère sentir que l'on me fait confiance.
Flying Lieutenant pour les intimes, JJ pour ses compatriotes, Jerry John Rawlings fait partie de ces rares chefs d'État africains qui ont marqué les intellectuels de sa génération, d'abord par son engagement militant, par son panafricanisme, par son courage politique, mais également par son style et les résultats économiques qu'il a obtenus. Pourtant, rien a priori ne pouvait laisser prévoir que ce pilote de chasse, passionné de grosses cylindrées, marquerait tant l'histoire du Ghana. 18 ans à la tête du Ghana lui auront suffi pour redonner de la crédibilité sur le plan international à cette nation dont le nom était de plus en plus associé depuis le renversement de Kwame Nkrumah à la corruption et au coup d'état militaire. Le 15 mai 1979, le peuple ghanéen apprend par la presse au petit matin qu'un officier, le capitaine Jerry John Rawlings, vient d'être arrêté pour tentative de coup d'État. Le jeune pilote de chasse, sur un coup de tête, excédé par la corruption endémique dans son pays, a réveillé ses copains d'escadron pour les convaincre de cerner le castel, le château, l'ex-fort danois de Christiansborg, palais des gouverneurs britanniques où résident les chefs d'État ghanéens. En réalité, rien n'était préparé. Pourtant, les fidèles du capitaine vont s'attaquer à la radio, au centre de communication internationale et au siège de la police militaire. Mais très vite, ils sont contenus par une poignée de soldats loyalistes. Jerry John Rawlings est arrêté. Le 28 mai, soit une dizaine de jours après cette folle aventure, il comparaît avec 6 de ses compagnons devant le tribunal militaire d'Accra. En réalité, ils savent que leur sort est scellé. C'est la potence au bout du procès. Alors JJ joue le tout pour le tout. Il lance un formidable défi à cette parodie de justice. Debout dans la salle d'audience, non seulement il revendique son acte, mais il vitupère contre la clique de corrompus qui gouverne. Une à une, il dénonce avec fougue l'état du régime et appelle à une révolution à l'éthiopienne. Il entend par là non pas l'instauration d'une politique semblable à celle en place à l'époque d'Addis Abeba, mais une épuration sanglante des personnes qui auraient profité malhonnêtement des biens du peuple. Dans la salle, c'est le délire. La foule applaudit, les juges dépassés menacent de faire évacuer les lieux et de poursuivre le procès à huis clos. Mais il est trop tard, puisque dès le lendemain, la presse ghanéenne va faire de Jerry Rawlings un héros. Le général Akufo, qui a commis l'erreur de le faire juger en public, hésite à le faire exécuter sur le champ. Son procès est reporté au 4 juin de la même année 1979. Ce 4 juin, au petit matin, les soldats qui surveillaient JJ le sortent de prison et le conduisent à la radio que son ami le major Opoku Mensah occupe avec sa troupe. Il est 16h du matin lorsque le capitaine Rawlings annonce que le gouvernement est renversé. Tous les officiers supérieurs se tairent chez eux en écoutant ce message. Mais le général Neville Alexander Odarte Wellington, le chef d'état-major de l'armée de terre, décide de se lancer à l'assaut de la radio. Il parvient dès 9h du matin à la reprendre et annonce sur les antennes que le push a été déjoué. Entre-temps, Jerry Rawlings vole de garnison en garnison pour rallier les troupes déjà galvanisées par les déclarations du procès. Peu après, 15h, le général Odarte Wellington est neutralisé et abattu au commissariat de police de Nima. Le soir même, Jerry Rawlings forme une junte. Un conseil révolutionnaire des forces, le CRFA, est constitué. Il est composé de 10 militaires. C'est la première fois en Afrique que les seconds de l'armée prennent le pouvoir. Très vite, le nouvel homme fort du Ghana annonce la couleur. Il fait savoir à la radio qu'il va nettoyer la maison avant de remettre le pouvoir aux civils. Les élections qui étaient prévues sont en effet maintenues pour le 18 juin et Rawlings n'est pas candidat. Le grand ménage peut commencer. Il fait exécuter 8 généraux, dont 3 ex-chefs d'État, les généraux Afrifa, Achiampong et Akufo. Le monde entier découvre alors ce grand gaillard au corps mince et musclé, au regard de fauve, qui prône la révolution. Jerry John Rawlings est né le 22 juin 1947 à Accra. Sa mère, Victoria Abotui, vient d'un village proche de Quetta, dans la région du Volta. Son père John John, un ingénieur chimiste écossais qui travaillait aux usines Kingsway d'Accra, a toujours refusé de le reconnaître. Un rejet qui va le marquer. En Afrique, les familles sont vastes et l'enfant appartient en principe à tous ses membres. Le jeune Jerry va donc s'intégrer dans celle de sa mère. Il vit avec sa tante à Sekondi. C'est d'ailleurs grâce à elle, qui est trésorière d'Hashimoto, qu'il va faire ses études dans le fameux collège où est passée une bonne partie de l'élite ghanéenne.
The armed forces in cooperation with the Ghana Police Service
Le 23 février 1966, les forces armées, en coopération avec le service de police ghanéen, ont renversé l'ancien gouvernement dirigé par Kwame Nkrumah. En conséquence, le président a été destitué, ainsi que ses ministres. La commission présidentielle a été abolie et la constitution a été suspendue.
Jerry Rawlings a 19 ans lorsque le général Kotoko prononce ce discours qui sonne la fin de l'ère Nkrumah. Nous sommes en 1966. Il vient d'obtenir l'équivalent du baccalauréat. L'année suivante, il va rentrer à l'école des cadets de l'aviation de Takoradi, où il obtient brillamment son diplôme en 1968. En janvier 1969, il est nommé officier pilote. Et il remporte la même année le fameux Speedbird Trophy, qui récompense le meilleur pilote de chasse de l'armée de l'air ghanéenne. Les années 70 sont particulièrement sombres au Ghana. Le régime militaire d'Achéampon, au pouvoir depuis 1972, sombre dans la corruption. La politique de ce nouveau régime fondée sur le self-reliance, produire sa propre nourriture, est un échec. Le cacao et le bois, principales ressources du pays, sont vendus en contrebande au Togo et en Côte d'Ivoire, en échange de francs CFA, sous l'œil complaisant des douaniers et des militaires qui prélèvent leurs commissions au passage. L'inflation atteint le sommet vertigineux de 300% par an et le cédi, la monnaie locale, ne vaut plus grand-chose. Une poignée de Ghanéens et des Syro-Libanais qui disposent de liquidités sont les véritables bénéficiaires de ce commerce parallèle. Les fameuses Mama Benz, les matrones des marchés, surnommées ainsi à cause des superbes Mercedes qui servent à leurs déplacements, provoquent des pénuries artificielles. Tout ceci, naturellement, nourrit les ressentiments de la population, notamment des étudiants qui commencent à bouger. Mais le pouvoir répond par la répression. C'est dans ce climat où Rawlings, qui vient d'être promu Flight Lieutenant, prend de plus en plus conscience que l'armée peut être utilisée comme un outil pour mettre fin à l'oppression des populations. Nous sommes en 1978. C'est dans ce contexte qu'un autre officier supérieur, le général Akufo, chef d'état-major, un compagnon d'armes du président, écarte Hashimoto du pouvoir pour prendre les rênes du pays. Et si dans un premier temps, le nouvel homme fort éloigne les symboles de la corruption des arcanes du pouvoir, lui aussi va très rapidement décevoir les tenants du retour à la démocratie. Des abus de pouvoir manifestes vont briser la confiance sur laquelle reposait la hiérarchie et la discipline. Une fois de plus, c'est le désastre économique qui va avoir raison des militaires. Entre juin et septembre 1978, le CELI, la monnaie nationale, subit une dévaluation de fait de près de 60%. Les produits de consommation vont connaître une augmentation de prix de près de 400% et sont d'ailleurs de plus en plus rares. Ce qui bien sûr suscite la misère et la révolte dans les faubourgs d'Accra, de Kumasi, la seconde ville du pays, de Tema et de Takoradi, les principaux centres industriels. Le général Akufo est contraint d'instaurer l'état d'urgence. Et sous la pression de la rue, il est obligé d'autoriser les partis politiques. Et pour la première fois, l'expression des laissés-pour-compte fait plier un régime. C'est dans ce contexte qu'intervient la tentative de push de Jerry Rawlings, qui après quelques jours de prison, va être porté au pouvoir.
Looking back at the anger of our people at the point in time of the revolt, if I may say something at this point in time, you know, when people...
Si on regarde de nouveau la colère de notre peuple à l'époque de la révolte, si je peux dire quelque chose à ce propos, vous savez, lorsque les gens ont été oppressés pendant si longtemps et que vous les avez traités comme s'ils étaient des animaux ou des chiens, vous deviez être surpris lorsqu'ils se comportaient comme des humains. Et lorsque vous humiliez les gens à ce point et qu'ils se révoltent et que vous leur donnez le monde, ils vous le renvoient à la figure. Ils ne désirent que la justice. Cela peut faire couler beaucoup de sang. Ce fut le niveau d'énervement de notre peuple, l'humiliation par laquelle il est passé. Ce bref Bref, laps de temps de 3 mois a été marqué par les exécutions qui ont eu lieu. Et là encore, on en a payé le prix fort. Je veux dire que nos généraux, les gens en uniforme, portent cela en eux. Mais les plus coupables, ceux qui nous ont menés en bateau pendant des années, se trouvent parmi les civils, les hommes d'affaires véreux. Comprenez-moi bien, certains pensent que je déteste les hommes d'affaires, mais ce n'est pas le cas. J'aime bien les hommes d'affaires honnêtes et ceux qui réussissent, je les respecte. Mais je déteste les hommes d'affaires malhonnêtes, parce que ces derniers réussissent à corrompre la fibre morale de notre société. Donc, ceux qui sont honnêtes passent leur temps à se battre pour résoudre les problèmes causés par les corrompus. Une partie des problèmes que nous avons dans le tiers-monde, c'est la mauvaise façon, par exemple, avec laquelle nous combattons la corruption du sommet jusqu'à la base.
Cette accession au pouvoir dans un climat social particulièrement tendu va donner lieu à des mesures particulièrement dures vis-à-vis des dirigeants sortants, puisque les 3 ex-chefs d'État, Afrifa, Achiampon et Akufo, sont exécutés. Bref, 8 généraux vont être passés par les armes, une 15aine de gradés placés sous séquestre. Jerry Rawlings va également geler les biens et les comptes en banque de près d'un millier de personnalités civiles ou militaires de l'ancien régime. Des centaines de hauts fonctionnaires sont jugés et emprisonnés pour détournement de fonds, ce qui bien sûr suscite la fuite de nombreux cadres vers l'étranger. Mais le peuple approuve cette épuration qui s'accompagne d'une baisse des prix des produits de première nécessité. Mais le marché noir persiste. Le nouveau maître du pays va alors s'en prendre au Maman Benz. Un matin, il débarque au marché d'Accra, un des plus grands d'Afrique, et lance au matron : « Je vous donne 24 heures pour déguerpir. » Le lendemain, il fait dynamiter toutes les baraques de Mama Benz. Sa méthode fait alors réagir la communauté internationale qui redoute une dérive dictatoriale, qui craint de voir se multiplier les violations des droits de l'homme. Rawlings prononce alors un discours pour rassurer le monde entier, puis organise les élections comme prévu. Le 9 juillet, le docteur Hilal Iman est élu à la présidence de la République. Le pouvoir va lui être remis au cours d'une cérémonie à laquelle assiste le président Sékou Touré de Guinée. Le capitaine Rawlings, pour une fois en grande tenue militaire, monte 10 secondes à la tribune pour lancer une mise en garde assez claire au nouveau régime.
To you, Mr. President, your government, and members of this honorable house, we of the EFRC, in the light of our reading of the situation, make a fervent appeal never to lose sight of this new consciousness of the Ghanaian people. Ghana is looking up to you. Thank you.
Nous lançons un fervent appel afin que vous ne perdiez pas de vue la nouvelle conscience du peuple ghanéen. Le Ghana vous observe, merci. Voilà donc, Farida, ce que disait le capitaine Jerry Rawlings le 24 septembre 1979.
Après cette mise en garde, le jeune capitaine se retire sous les acclamations de la foule en délire. À ce moment, il n'a que 32 ans et il remet déjà le pouvoir. Après sa sortie réussie, le jeune flying lieutenant est mis à la retraite par les autorités. Il n'a pourtant que 32 ans. Il entame alors une longue traversée du désert. Difficile pour Jerry Rawlings, qui avec ses amis est mis à la retraite de vivre sans prendre les commandes d'un avion. En plus, il doit faire face à l'hostilité du régime en place, qui orchestre régulièrement une formidable campagne de dénigrement. Pour s'occuper, pour ne pas sombrer, il va créer le mouvement du 4 juin, dont le but est, dit-il, d'aider le peuple à réfléchir. Une initiative qui ne plaît pas puisque vont être organisées contre lui plusieurs tentatives d'assassinat. Si sur le plan de la démocratie, le nouveau régime fait avancer le processus, rien ne s'arrange sur le plan économique. Les trafiquants contre lesquels s'était attaqué Jerry Rawlings sont de retour. L'économie est au fond du gouffre et le président Lima n'ose pas prendre les mesures indispensables au redressement de la situation. Pour cet homme d'action qu'est le capitaine Rawlings, que l'on compare tantôt à Robespierre, tantôt à un Fidel Castro ou à un Kadhafi dont il a parfois les réactions imprévisibles, le spectacle de son pays en plein naufrage ne pouvait le laisser indifférent. Alors que les partis d'opposition cherchaient à se regrouper pour présenter éventuellement une alternative viable au régime du président Liman, et que le président lui-même désemparé était allé chercher conseil auprès de son homologue nigérian, Jerry Rawlings a décidé de mettre fin à cette descente aux enfers en revenant sur le devant de la scène. Appuyé par un petit groupe de partisans, il reprend le pouvoir le 31 décembre 1981. Un autre coup d'état de la Saint-Sylvestre. Mais il préfère parler de révolution.
Our aim is the meaningful participation of all the people of this country in the transformation of our society so that everyone may live in dignity and social justice.
Notre objectif est de faire réellement participer le peuple ghanéen à la transformation de notre société afin que chacun puisse vivre dans la dignité et la justice sociale. À cette fin, le pouvoir de prendre des décisions qui étaient jusqu'ici concentrées dans les mains de quelques privilégiés doit être accessible à ceux qui n'avaient pas le droit de s'exprimer. Nous sommes en train de mettre sur pied les structures et les modalités qui nous permettront d'atteindre cet objectif. Cette philosophie, celle de notre révolution, ne peut correspondre à aucune des idéologies dominantes auxquelles vous pourriez penser. Nos conditions, nos expériences, notre histoire et notre culture ont été et seront les éléments essentiels du contenu de notre révolution.
Our conditions, experiences, past history, and our culture have and will be the essential determinants of the philosophical content of our revolution.
Cette nuit du 31 décembre 1981, dans son allocution radiodiffusée, le capitaine Jerry Rawlings annonce la suspension de la Constitution et la suppression des partis politiques. Il forme cette fois-ci un Conseil national provisoire de défense, le CNPD. Durant sa traversée du désert, Jerry Rawlings, qui n'a jamais vraiment affiché de grands penchants intellectuels, s'est lié avec un petit groupe renommé de la gauche ghanéenne, notamment le capitaine Kodjo Tsikata, un marxiste pur et dur, compagnon de route de Patrice Lumumba, puis combattant du MPLA, le mouvement angolais, ou encore le docteur Kwesi Botchwe, un brillant intellectuel connu également pour ses opinions marxistes, qui va devenir le ministre des Finances, de l'Économie et du Plan. Le Rawlings du second coup d'État n'est plus le même homme, il a mûri. Il sait maintenant qu'il doit traduire concrètement ses idées populistes de gauche. Après avoir mis sur pied des structures décentralisées qui permettent à tout Ghanéen d'avoir voix au chapitre, notamment avec les fameux comités de défense populaire et comités nationaux de défense et les tribunaux populaires dont les jugements sont expéditifs et excessifs, Jerry Rawlings, très sévèrement critiqué par Amnesty International, est obligé de reculer et de rassurer les chefs traditionnels tout-puissants au Ghana qui ont vu leurs prérogatives diminuer. Mais ce sont surtout les dures réalités économiques qui vont faire évoluer le nouveau maître du Ghana vers une politique plus pragmatique et beaucoup moins marquée à gauche.
I've often pointed out that pragmatism can be a term of approval or disapproval.
J'ai souvent souligné que le terme de pragmatisme peut être une approbation ou un désaveu selon le sens qu'on lui donne.
We will do whatever is necessary to achieve a sustainable level of prosperity and dignity for the people of Ghana, provided, and I emphasize this, provided it does not compromise our principles and our sovereignty.
Nous ferons tout ce qu'il faut pour parvenir à un niveau satisfaisant de prospérité et de dignité pour le peuple ghanéen. Étant entendu, et j'insiste sur ce point, qu'il n'est pas question de laisser place au moindre compromis quant à nos principes et à notre souveraineté.
If you're drowning and someone throws you a rope and you know that the person will certainly make some demands on you later, will you drown or will you take hold of the rope? And is this pragmatic? And does it mean that you have committed yourself to being dominated by the person who threw you the rope?
Supposez que vous êtes en train de vous noyer et que quelqu'un vous lance une corde et que vous sachiez que cette personne agit dans un but intéressé. Vous laisseriez-vous couler ou attraperiez-vous la corde? Est-ce de pragmatisme? Et cela veut-il dire que vous vous laisseriez dominer par la personne qui vous a lancé la corde?
Pour ne pas couler, par pragmatisme, Jerry Rawlings demande alors au docteur Kwesi Botchwe, son ministre, d'élaborer un programme de redressement économique, Economic Recovery Program. Il doit s'étaler sur 3 ans, 1984, 85 et 86. Il doit comporter une réduction des subventions aux produits de base, des coupes sombres dans les dépenses budgétaires et une dévaluation record du CEDI, la monnaie ghanéenne, près de 1000%. Armé de ce programme choc, le ministre Kwesi présente à Paris en 1983 le cas du Ghana devant le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et les pays créanciers occidentaux réunis au sein du Club de Paris. le Ghana obtient gain de cause et près d'un milliard de dollars d'aide lui est en plus accordé pour 1984 et 85. Ses détracteurs vont alors l'accuser d'avoir vendu son âme, de s'être embourgeoisé. Le ministre Joyce Harrier, une de ses proches, répond aux attaques.
Nous avons maintenant un programme de reconstruction économique. C'est pour 3 ans, c'est-à-dire 84 jusqu'à 86. Et pendant ces périodes, il y a des choses à faire. Premièrement, on prend l'argent du Fonds monétaire et chez nous aussi, on fait les mobilisations pour que puissent mobiliser nos efforts pour les choses que nous pouvons faire nous-mêmes ici.
Le peuple, en tout cas, approuve l'option économique de Jerry Rawlings. Jerry Rawlings a perdu le défi d'instaurer un réel pouvoir populaire pour le moins utopique. En effet, sur le front politique, la libéralisation du régime s'illustre par la dissolution des comités nationaux de défense en novembre 1984 et va même remanier son gouvernement en éliminant les personnalités trop marquées à gauche et en faisant appel à des figures illustres de l'époque Nkrumah.
I'm probably not the right person to be answering this question. However, I don't think this country has had the right to dissent, the right to disagree, the right to give expression to opposing views, as we've had since the 31st of December.
Je ne suis probablement pas la personne la mieux indiquée pour répondre à cette question, mais je ne crois pas que dans ce pays, il y a eu autant de place à l'expression d'avis différentes, d'avis opposés, que depuis le 31 décembre 1981. Cela peut être prouvé. C'est précisément cette atmosphère qui a conduit certains à s'opposer par les armes. Grâce à cette atmosphère où chacun pouvait s'exprimer librement, certains uns ont abusé, ce qui est malheureux. En ce qui concerne les intellectuels, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup par ici. Nous avons en revanche beaucoup d'académiciens. J'espère que vous faites la différence. Pour moi, un intellectuel est quelqu'un capable d'appliquer à la réalité quotidienne son savoir-faire et capable de créer concrètement à partir de cette réalité. Alors, faisons bien la différence entre les académiciens et les intellectuels.
I would say that we have a whole lot of characters over here who are really nothing but anarchists. Besides, too many of them are out of touch with reality for so long and by such a wide gap with the people. That a communication and an ideological barrier exists between them and the masses. People cannot even understand what they're talking about.
À propos de ces intellectuels dits de gauche, je dirais que nous avons par ici pas mal de personnages qui ne sont pas autre chose que les anarchistes. Nombre d'entre eux sont tellement loin de la réalité depuis si longtemps qu'un gouffre les sépare du peuple. Il y a une immense barrière idéologique et de communication entre eux et les masses. Le peuple ne comprend même pas de quoi il parle. C'est précisément à cause de ce gouffre que des criminels qui se disaient politiciens, ces criminels de passé, ont abusé du peuple et ont si mal gouverné le pays pendant autant d'années. Un jour, je réunirai ces intellectuels pour leur démontrer à quel point ils se trompent. Je souhaite qu'ils soient plus lucides, plus au fait de la réalité concrète. C'est peut-être leur erreur la plus grave.
There's a name for them. I can't recollect it, but it comes close to. It's very derogatory, in the sense that they more often indulge in intellectual masturbation, if I'll put it that way.
Pour moi, il s'adonne surtout à la masturbation intellectuelle.
Désormais donc, Jerry Rawlings, le révolutionnaire, n'a qu'une seule idéologie qui n'a rien à voir avec le communisme ou le libéralisme, celle d'améliorer la condition de ses compatriotes. Pour cela, il accepte de se soumettre aux règles des privatisations qu'imposent les institutions de Bretton Woods.
Chief, let's face it, some people might feel, you know, might be wondering why I should be saying this, but a certain element of our sovereignty is going along with it.
Regardons la vérité en face. Certaines personnes peuvent penser, peuvent se demander pourquoi je devrais vous dire cela, mais certains composants de notre souveraineté se portent bien avec cela. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir certaines de ces coûteuses et profitables entreprises publiques. Les personnes de ce que l'on appelle si bien le monde développé, entre guillemets, sont celles qui peuvent se les offrir. Ceci est une autre raison, je pense, pour laquelle une économie libérale ou capitaliste achète systématiquement certains aspects de notre souveraineté. Vous me suivez? Espérons juste que ça nous aidera à améliorer nos standards de qualité de vie. Nous sommes revenus de la philosophie des modèles économiques socialistes. Certains d'entre eux se sont avérés être très efficaces, mais dans leur ensemble, la plupart de ces modèles n'ont été que tristes déceptions. Donc, le fait d'avoir à privatiser certaines entreprises publiques n'est que le résultat de nos propres expériences passées. Vous savez, le comportement habituel des managers ou des équipes de travail qui ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils ne posséderont jamais rien, tout appartenant à l'État, et ne feront pas l'objet de soins ou d'intérêts particuliers comme ils le feraient dans une entreprise privée. Mais bon, depuis que nous sommes revenus à la privatisation des entreprises publiques, certaines de ces entreprises qui s'étaient déjà virtuellement écroulées sont revenues à la vie. Le voyez-vous comme une sorte d'explication au développement? Dans un sens, oui. C'est ce que je suis en train de dire. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Les entreprises effondrées renaissent depuis que nous avons impliqué le secteur privé. Autant les entreprises étrangères que nationales. Cela a été très, très encourageant.
Both foreign and domestic. It's been quite encouraging.
Si sur le plan économique, Jerry Rawlings s'est plié aux règles de l'économie de marché, il n'a pas perdu son sens critique et cette option n'a en rien entamé son engagement en faveur du continent noir. Je vous donne rendez-vous juste après le journal pour en parler. Dans cette seconde partie, nous évoquerons également la suite du parcours, du destin assez singulier de Jerry Rawlings. Rendez-vous donc dans une dizaine de minutes pour la suite d'Archives d'Afrique.